Chapitre 11. Tarvalon. Le petit village appelé Darein se dressait au bord du fleuve Erinin depuis des lustres, presque depuis le temps où les tours de Tarvalon avaient poussé sur l'île. Avec ses petites maisons en pierre rouge ou en briques et ses rues artistiquement pavées, le bourg respirait la paix et donnait une impression de permanence. Pourtant, il avait été incendié lors des guerres des Trollocs, mis à sac quand les armées d'Arthur occupaient Tarvalon, pillé à plusieurs reprises durant la guerre des Cent Années, et de nouveau brûlé lors de la guerre des Aiel, une vingtaine d'années plus tôt. Une histoire tumultueuse pour une paisible bourgade. Mais sa position, au pied d'un des ponts qui menait à Tarvalon, lui assurait d'être reconstruit autant de fois qu'il le faudrait. Tant que la cité attenante serait debout, en tout cas. Au début, Egwene eut le sentiment que Darein se préparait à la guerre. Une colonne de piquiers patrouillait dans les rues, armes et armures brillant comme des sous neufs, et des archers aux casques plats les suivaient, des carquois débordant de flèches accrochées à la ceinture. Un détachement de cavalerie, le visage des hommes invisibles sur leur haut magrille, obéissant à un ordre de son chef, s'écarta du chemin de Vérine et de ses compagnons. Tous ces soldats arboraient sur la poitrine, telle une larme immaculée, la fameuse flamme blanche de Tarvalon. Mais à mieux y regarder, les villageois allaient et venaient avec une nonchalance qui démentait cette première impression. Sur le marché, la foule s'écartait pour laisser passer les soldats, certes, mais pratiquement sans les remarquer, comme s'ils faisaient depuis toujours partie du paysage. Quelques vendeurs de fruits ambulants des deux sexes, un panier dans les bras, suivaient les militaires pour tenter de leur vendre des pommes et des poires ratatinées récemment sorties des garde-manger hivernaux. À part ça, les boutiquiers et les colporteurs n'accordaient aucune attention aux soldats. Alors qu'elle guidait ses compagnons vers le pont, Vérine aussi semblait ne pas remarquer les hommes en armes. Passant au-dessus de près d'un quart de lieue d'eau et de terre, le pont délicatement ouvragé faisait penser à un ruban de dentelle minérale. À l'entrée, une dizaine de piquiers épaulés par 5 ou 6 archers arrêtaient toute personne qui manifestait l'intention de traverser. L'officier responsable de la surveillance, un type chauve qui avait accroché son casque à la poignée de son épée, semblait accablé par la file des voyageurs qui attendaient l'autorisation de passer. Des piétons, des cavaliers, des chariots et des charrettes. En réalité, la file n'était pas si longue que ça, une centaine de pas au maximum. Mais chaque fois qu'un visiteur s'engageait sur le pont, un nouveau candidat le remplaçait en bout de colonne. Malgré son agacement, l'officier chauve prenait tout son temps quand il s'agissait d'interroger puis de repousser ou d'accepter tout nouvel arrivant. Voyant que Vérine remontait la file, ses compagnons à la traîne, il faillit brailler d'indignation. Regardant mieux la Sedai, il se ravisa et se hâta de remettre son casque là où il aurait toujours dû être. Ici, les gens n'avaient pas besoin de voir la bague au serpent pour reconnaître une Sedai.
Bien le bonjour, dame Sedai,
dit le chauve en s'inclinant bien bas, une main sur le cœur.
Vous pouvez traverser, bien sûr.
Vérine s'arrêta près de l'officier. Derrière elle, des murmures coururent dans les rangs, mais personne n'osa protester à haute voix.
« Des problèmes avec les capes blanches, capitaine ?»«
Pourquoi perdons-nous du temps ?»
se demanda Egwene.
« A-t-elle oublié que Matt est entre la vie et la mort ?»«
Des problèmes ?»
répondit l'officier.
« Pas vraiment. Aucun affrontement, en tout cas. Les filles sont tentées d'infiltrer Marché d'Eldon, de l'autre côté du fleuve. Mais nous les en avons dissuadées. La chair d'Amirline voulait être sûre qu'il n'essaierait plus. »«
Vérine Sedai ?»
intervint prudemment Egwene.
« Matt est... Nous verrons ça plus tard, mon enfant. »
répondit Aes Sedai, presque distraitement.
« Je ne l'ai pas oublié. »
Après cette affirmation, elle se concentra de nouveau sur l'officier.
« Et les villages environnants ?»
Mal à l'aise, le militaire haussa les épaules.
« Nous ne pouvons pas en interdire l'accès aux Fils de la Lumière. Mais ils en partent quand nos patrouilles arrivent. Ils essaient de nous provoquer, je pense. »
Vérine acquiesça. Elle se serait probablement remise en chemin, mais le capitaine de la garde n'en avait pas terminé.
« Je m'excuse, Aes Sedai, mais à l'évidence, vous venez de très loin. Avez-vous des nouvelles fiables ? Chaque bateau commercial décharge en même temps que sa cargaison un lot de rumeurs inédites. Il paraît qu'il y aurait un nouveau faux dragon à l'ouest. On raconte aussi que les armées d'Arthur Eldefaucon, revenues d'entre les morts, ont combattu sous son commandement et massacré des capes blanches avant de raser une ville appelée Falme, que certains situent au Tarabone.
On dit que les Aes Sedai ont aidé Arthur !
Cria une voix masculine dans la file d'attente. Urin inspira à fond et se tendit comme s'il prévoyait du grabuge. Egwene sonda la foule, mais elle ne parvint pas à repérer le trublion. Tous les visiteurs semblaient concentrés sur une seule occupation, attendre plus ou moins patiemment qu'on les autorise à entrer. Les choses avaient changé, et pas en bien. Au moment où la jeune fille avait quitté Tarvalon, une remarque désobligeante sur les Aes Sedai aurait au minimum valu à son auteur un bon coup de poing sur le nez. Rouge de colère, l'officier aussi scrutait la file d'attente.
« Les rumeurs ont l'art de tout embrouiller, »
dit Vérine.
« Je peux t'assurer que Falm est toujours debout. En revanche, cette ville n'a jamais été au Tarabone. Écoute moins les bavardages et fie-toi davantage à ce que dit la chair d'Amirline. Que la lumière éclaire ton chemin, mon fils. »
Comme tous les ponts de Tarvalon, celui-là força l'admiration des Gwen. Pour donner naissance à une telle dentelle, il avait sans doute fallu recourir aux meilleures couturières possibles. Comment avait-on réussi pareil chef-d'œuvre avec de la pierre? Et par quel miracle ce pont suspendu aux parois ajourées, la fameuse dentelle, tenait-il debout tout seul, sur les quelques 500 pas de longueur qui lui permettaient de surplomber un bras du fleuve pour donner accès à la cité insulaire? Sur un plan plus personnel, la jeune fille avait une autre raison de s'ébaubir et de s'inquiéter. Si bizarre que cela parut, elle avait le sentiment que ce pont la ramenait à la maison.
« C'est Champ des Mondes, ma maison !»
Certes, mais c'était ici, à Tarvalon, qu'elle apprendrait tout ce qu'il lui fallait savoir pour rester en vie et ne plus jamais perdre sa liberté. À Tarvalon également, qu'elle découvrirait pourquoi ses rêves la perturbaient tant et pour quelles raisons il semblait souvent avoir une signification cachée qui lui échappait. Bref, sa vie était liée à Tarvalon désormais. Si elle retournait un jour à Champ des Mondes, par la lumière, que ceci était douloureux. Ce serait pour rendre visite à ses parents. En quelques semaines, elle avait cessé d'être la fille d'un aubergiste. Cet héritage n'était plus le sien, non parce qu'elle le méprisait, mais parce qu'elle l'avait dépassé, tout simplement. Première merveille visible, le pont n'était pas la seule, loin de là. Sur l'île, il déposait les visiteurs au pied des murs scintillants, cette muraille d'enceinte blanche aux reflets d'argent d'une telle hauteur qu'elle dominait largement le pont. À intervalles réguliers, des tours de garde construites avec la même pierre interrompaient les murs, leur base massive caressée par l'onde paisible du fleuve. Au-delà, se dressaient les légendaires tours de Tarvalon, souvent reliées par des passerelles, qui dessinaient un front de ciel majestueux, les flèches, les colonnes et les minarets se combinant harmonieusement pour composer une haute vibrante à la splendeur. Et pourtant, ce n'était que le prologue à la gloire de Tarvalon. Le portail de bronze assez large pour laisser passer 20 personnes de front n'était pas gardé. Au-delà, les visiteurs s'engageaient dans un quadrillage savant de larges avenues qui couvraient toute l'île. Alors que le printemps commençait à peine, un parfum de fleurs et de délicates épices flottait dans l'air. Egwene eut le souffle coupé, comme si elle découvrait la cité. Sur chaque place et au coin de presque toutes les rues, une fontaine, une statue ou un monument forçait l'admiration. Mais dans cette ville, tout ce que l'œil voyait était d'une frappante beauté. Dans un feu d'artifice de splendeur architecturale, les formes les plus banales, somme toute assez rares mais inévitables, étaient sublimées par des ornements qui les transformaient quasiment en objets précieux. Et quand on faisait dans la sobriété, c'était pour mieux exalter la taille ou la complexité d'un détail d'architecture. Qu'ils fussent grands ou petits, les bâtiments en pierre de couleur, un véritable arc-en-ciel minéral, évoquaient des coquillages, des vagues ou des falaises sculptées par les éléments. Une galerie de tableaux inspirés par la nature ou l'imagination humaine, avec une seule constante en commun, la beauté. À Tarvalon, les auberges, les écuries et les maisons, si insignifiantes soient-elles, étaient au service d'une ambition esthétique. Après la dislocation du monde, des artisans augiers s'étaient chargés de reconstruire la mégalopole. Leurs descendants affirmaient toujours qu'ils n'avaient jamais rien créé de plus beau. Des hommes et des femmes de toutes les origines arpentaient les rues. Représentant fièrement toutes les couleurs de peau, ils s'affichaient souvent dans des vêtements aux couleurs vives. D'autres passants portaient des tenues beaucoup plus neutres, mais rehaussées d'accessoires ornementaux, et une minorité déambulait dans des habits sombres et rigoureusement stricts. Quelques badauds des deux sexes exhibaient un peu trop de peau nue au goût des Gwen. D'autres promeneurs, en revanche, ne révélaient rien de plus que leurs yeux et le bout de leurs doigts. Partout, les chaises à porteurs et les carrosses se frayaient un chemin à travers la foule. Malgré les « faites place » furieux des porteurs et les cris des cochers, le trafic restait très lent, car les passants ne mettaient jamais une grande hâte à s'écarter. Accompagnant parfois le numéro d'un jongleur ou d'un acrobate, des musiciens ambulants jouaient de la harpe, de la flûte ou de la cornemuse, un chapeau rempli de pièces posé à leurs pieds. Sans jamais faiblir, les colporteurs vantaient leurs marchandises à grand renfort de beuglement. Campés sur le seuil de leur boutique, les commerçants donnaient eux aussi de la voix pour ne pas se laisser damer le pion par cette concurrence déloyale. Presque à toute heure, un bourdonnement montait de la ville, à croire qu'elle était vivante et chantait pour célébrer sa foisonnante joie de vivre. Vérine avait relevé sa capuche, dissimulant ainsi son visage. Et Gwen se demanda pourquoi, puisque personne, dans la foule, n'accordait la moindre attention aux six voyageurs. Même Matt, dans sa litière, n'intéressait personne, sauf quelques angoissés qui faisaient un grand détour plutôt que de passer près d'un malade possiblement contagieux. De fait, il arrivait que des familles désespérées conduisent à la Tour Blanche des patients très gravement atteints. Et Gwen vint chevaucher au niveau de Vérine et se pencha vers elle.
« Vous êtes encore inquiète ? En ville, nous ne risquons rien. Et nous sommes presque arrivés. »
Dominant tous les autres bâtiments, la Tour Blanche n'était plus qu'à quelques centaines de pas.
« Je ne suis jamais tranquille, » répondit la Aes Sedai. « Et tu devrais adopter cette habitude. Surtout dans la tour. Toutes les trois, prenez bien garde à vous. Votre démonstration a fait fuir les capes blanches. À la Tour Blanche, les mêmes débordements risquent de vous coûter la vie. Au minimum, on vous condamnera à être calmé.
Je ne ferai jamais ça dans la tour, »
se défendit Egwene.
« Et mes amis non plus. »
Laissant Ourine s'occuper de la civière, Ninévé et Elaine rejoignirent les deux autres femmes et acquiescèrent à la déclaration d'intention d'Egwene. La seconde avec une ferveur sincère, et la première avec une visible retenue, comme si elle ne souscrivait pas à l'intégralité de ce programme.
« Il ne faudra jamais recommencer, mon enfant. Jamais !»
Malgré sa capuche, Vérine parvint à jeter un regard en coin aux trois fautives.
« Et j'espère que vous aurez aussi appris à ne pas cacter quand le silence s'impose. »
Elaine s'empourpra et Egwene sentit le rouge lui monter aux joues.
« Quand nous serons dans la tour, taisez-vous et acceptez tout ce qui se passera. Pas de protestation, c'est compris ? Vous ignorez tout de ce qui nous attend ici, et c'est très bien, parce que vous ne sauriez pas y faire face. Mais par pitié, fermez-la.
Je vous obéirai, Vérin Sedai, »
dit Egwene. Elaine lui fit écho, mais pas Ninévé. Soutenant le regard furieux de la Aes Sedai, elle finit par acquiescer à contre-cœur. Les six voyageurs débouchèrent bientôt sur la grande place qui s'étendait au cœur même de la cité. Au milieu de cet immense espace, la tour blanche s'élançait vers le ciel, flèche scintillante qui jaillissait d'un somptueux palais pour aller transpercer les nuages bien au-dessus des autres bâtiments de la cité. D'abord surprise, Egwene nota que la place était quasiment déserte. Puis elle se souvint que les citadins ne s'y aventuraient jamais sans une excellente raison.
« Vérine Sedai !»
dit Ourine, qui se chargeait toujours des chevaux de bas et de la civière.
« C'est là que nos chemins se séparent. »
Après avoir jeté un coup d'œil à la tour, l'éclaireur du Chiennard réussissait l'exploit de ne plus la regarder, alors qu'elle dominait le panorama. Même s'il venait d'un pays où on respectait profondément les Aes Sedai, la proximité de leur fief ne rassurait pas du tout le pauvre Ourine.
« Tu nous as été d'un grand secours, mon ami, »
dit Vérine.
Et ce, pendant un très long voyage. Si tu veux te reposer avant de repartir, tu seras le bienvenu à la tour.
Vérine Sedai, je n'ai pas de temps à perdre, serait-ce une journée, voire une heure. Je dois retourner au Chiennard pour raconter au roi Éhazard et au seigneur Hagelmar ce qui s'est vraiment passé à Falm. Je dois leur parler de...
S'interrompant brusquement, Ourine regarda autour de lui. Même s'il ne vit personne susceptible de l'entendre, il baissa la voix.
Eh bien, du seigneur Rand, ils doivent savoir que le dragon s'est réincarné. Je vais aller au port et embarquer sur le premier bateau en partance pour l'Est.
Dans ce cas, que la lumière éclaire ton chemin, Ourine du Chiennard.
Qu'elle brille pour vous aussi,
répliqua Ourine, prêt à secouer les rênes de sa monture. Il hésita pourtant un moment et ajouta.
Si vous avez besoin de moi, n'importe quand, envoyez un message à Faldara. Et je trouverai un moyen de vous rejoindre. »
Gêné de s'être épanché ainsi, il se racla la gorge, talonna sa monture et s'éloigna au trot, soit assez vite pour être rapidement hors de vue.
« Les hommes !»
s'écria Nineveh.
« Ils sont toujours prêts à courir. Mais quand on a besoin d'aide, ce n'est pas pour le mois prochain. »« Là où nous allons, »
lâcha Vérine,
« aucun homme ne pourrait nous aider. Surtout, n'oubliez pas, une fois dans la tour, je ne veux pas vous entendre. »
Le départ de Hurin démoralisa Egwene, comme si elle avait perdu un ami cher. Pourtant, il n'avait jamais frayé avec les femmes, se contentant de parler à Matt, et Vérine avait raison au sujet de la tour blanche, où tout homme, même le meilleur, se révélait impuissant face aux Aes Sedai. Cela dit, le petit groupe avait perdu un membre, et ça n'avait rien d'agréable. De plus, avoir un escrimeur avec soi, selon Egwene, ne pouvait jamais faire de mal. D'autant plus que cet escrimeur-là était un lien avec Rand et Perrine.
J'ai trop de soucis pour me préoccuper de l'heure.
Pour l'heure, les deux garçons devraient se contenter de la protection de Moiraine.
Et de Mine, parce que je suis sûr qu'elle veillera sur Rand.
Honteuse d'être si mesquine en un moment pareil, Egwene tenta d'étouffer dans l'œuf sa jalousie. Et elle faillit réussir. Avec un soupir, elle saisit la longe du cheval de bas de tête. Couvert jusqu'au menton, Matt respirait de plus en plus irrégulièrement.
« Tu seras bientôt soigné, mon ami. Pendant ce temps, nous découvrirons ce qui nous attend ici. »
Vérine était-elle vraiment obligée de les effrayer ainsi? Ça se pouvait bien, hélas. Oui, ça se pouvait bien. Aes Sedai fit le tour du complexe palatial pour gagner une petite porte latérale ouverte mais gardée par deux soldats. Rabattant sa capuche, Vérine se pencha pour parler à l'un d'eux. Surpris, l'homme regarda Egwene et les autres voyageurs, puis il franchit la porte au pas de course, en lâchant par-dessus son épaule.
« À vos ordres, Aes Sedai !»
Sans hâte excessive, Vérine franchit également la porte. Après avoir échangé un regard interloqué avec Nineveh et Elaine, qui se demandaient comme elle ce que Vérine pouvait avoir dit aux soldats, Egwene suivit le mouvement, entraînant avec elle les chevaux de bas et la civière. En forme d'étoile à six branches posées sur le côté, un corps de garde en pierre grise se dressait de l'autre côté du portail. Les sentinelles postées devant cessèrent de converser et s'inclinèrent sur le passage de l'Aes Sedai. La colonne traversa ce qui se révéla être un parc intérieur semé d'arbres et de buissons. Au gré des tournants d'une allée de gravier, Egwene aperçut entre les végétaux la forme de plusieurs annexes et la masse blanche écrasante de la tour. Les cinq voyageurs arrivèrent assez vite dans une cour d'écurie où des palefreniers, prévenus par le premier garde à l'évidence, accoururent pour prendre en charge leur monture. Obéissant à Vérine, deux hommes détachèrent la civière et la posèrent délicatement sur le sol. Alors que les chevaux étaient conduits vers un repos bien mérité, Vérine récupéra le sac de cuir caché au pied de Matt et le glissa sous son bras avec une nonchalance surprenante. Cessant de se masser les reins, Nineveh foudroya l'Aes Sedai du regard.
« Vous avez dit que Matt n'en avait plus pour très longtemps. Allez-vous le laisser ?»
Vérine leva une main. Un geste suffisant pour imposer le silence à l'ancienne sage-dame? Ou était-ce plutôt les bruits de pas qui retentissaient dans son dos? Shériam Sedai apparut, suivi par trois acceptés en robe blanche, la tenue traditionnelle, les couleurs des sept ajars rehaussant son ourlet, et deux costauds en tenue de simples travailleurs. Légèrement enrobée, la maîtresse des novices arborait les pommettes hautes typiques du Saldaea. Épargnée par les rides, comme toutes ses sœurs, cette rousse aux yeux verts se remarquait de loin. Très calme, comme toujours, elle dévisagea Egwene avec une moue qui n'augurait rien de bon.
« Ainsi tu ramènes nos trois fugueuses, Vérine. Avec tout ce qui est arrivé, j'aurais presque tendance à le regretter. Nous ne sommes pas des... »
commença Egwene.
« Tais-toi !»
explosa Vérine. Serrant les poings, elle regarda les trois jeunes femmes comme si ça pouvait suffire à leur clouer à tout jamais le bec. Pour Egwene, cela suffit amplement. Elle n'avait jamais vu Vérine vraiment en colère, et ça ne donnait pas envie de la contrarier. Les bras croisés, Nineveh marmonna entre ses dents mais n'alla pas plus loin. Derrière Shériam, les acceptés ne bronchèrent pas, écarquillant cependant les yeux pour ne pas perdre une miette du spectacle. Quand elle fut certaine que les fugueuses tiendraient leur langue, Vérine se tourna vers Shériam.
« Le garçon doit être isolé. Il est très malade et dangereux pour les autres autant que pour lui-même. »
« Le soldat m'a dit qu'il faudrait porter une civière. »
Shériam fit signe aux deux costauds de soulever la civière. Puis elle leur souffla quelques mots et ils emportèrent promptement Matt vers une destination inconnue. Egwene voulut rappeler que son ami avait besoin d'aide en urgence, mais un regard de Vérine la dissuada d'essayer. Furieuse, Ninevée tirait sur sa natte assez fort pour l'arracher de sa tête.
« Shirgam, »
dit Vérine,
« je suppose que toute la Tour Blanche sait que nous sommes de retour. »
« Si ce n'est pas déjà fait, ça ne tardera pas. Les arrivées et les départs sont devenus le principal sujet de conversation et de commérage. Falm n'est qu'en deuxième place, et la guerre civile du Caïrienne est battue à plate couture. Tu voulais que ça reste secret ?»
Vérine prit à deux mains le mystérieux sac de cuir.
« Je dois voir la chair d'Amirline, sans délai. »
« Et ces trois-là ?»«
Consignés et surveillés jusqu'à ce que la chair d'Amirline veuille leur parler. » Si elle en a envie. Leurs chambres suffiront, mais surveillez-les bien. Les mettre en cellule attireraient trop l'attention des curieuses. Bien entendu, pas un mot à quiconque.
Vérine s'adressait toujours à Shiryam, mais sa dernière phrase, comprit Egwen, était un pense-bête pour les fugueuses. Le regard ombrageux, Ninevée brandissait sa natte comme si elle avait voulu frapper quelqu'un avec. Ses beaux yeux bleus écarquillés, Elaine semblait encore plus pâle qu'à l'accoutumée. Pour sa part, Egwen aurait eu du mal à dire si elle était furieuse, morte de peur ou rongée par l'inquiétude. Un peu d'étroit, sans doute. Avec un dernier regard lourd de sens pour ses compagnes de voyage, Vérine sortit dans une belle envolée de cape, le sac de cuir serré contre sa poitrine. Plaquant les poings sur ses hanches, Shiryam étudia un moment les trois fugueuses. Au début, Egwen eut l'impression que la tension ambiante se relâchait. Même quand elle distribuait des corvées supplémentaires pour punir une infraction au règlement, la maîtresse des novices conservait un calme maternel et un humour presque bon enfant qui adoucissait ses sentences. Mais là, elle prit la parole d'un ton sinistre.
« Pas un mot, voilà ce qu'a dit Vérine Sedai, et il en sera ainsi. Si l'une d'entre vous ouvre la bouche, sauf pour répondre à une Aes Sedai, je lui ferai regretter le temps joyeux où ses malheurs se réduisaient à quelques coups de badine et au nettoyage des parquets. » « Me suis-je bien fait comprendre ?»«
Oui, Aes Sedai, »
dit Egwen. Ses amis lui firent écho. Mais dans la bouche de Ninevée, ces trois mots sonnaient plutôt comme un défi. Shiryam émit un grognement dégoûté.
« Beaucoup moins de filles viennent à la Tour Blanche suivre une formation, »
dit-elle.
« Mais il en reste quelques-unes. Hélas, la plupart sont incapables de sentir la source authentique. Alors quand il s'agit de la toucher... » Quelques bienheureuses apprennent à ne pas se faire mal avec le pouvoir, juste avant d'être expulsées. Une poignée de filles accèdent au rang d'accepté, et toutes ne seront pas capables de porter un jour le châle. C'est une vie dure, avec une discipline de fer. Pourtant, toutes les novices s'accrochent pour obtenir d'abord la bague, puis le châle. Même quand elles s'endorment en pleurant chaque soir parce qu'elles meurent de peur, elles luttent de toutes leurs forces. Et vous trois, dotés de plus de potentiel que j'aurais rêvé d'en connaître dans toute ma vie, mais qu'avez-vous fait? Quitter la tour sans autorisation, avec une formation lacunaire, comme des gamines irresponsables. Et après des mois d'absence, vous voilà de retour, pensant être accueillis à bras ouverts et reprendre votre formation comme si de rien n'était.
Shiryam exhala un long soupir, comme si elle voulait relâcher un peu de vapeur, histoire de ne pas exploser.
Faolaine!
Les trois acceptés sursautèrent, comme si on venait de les surprendre à écouter aux portes. L'une d'elles, une brune aux cheveux bouclés, fit un pas en avant. Les trois étaient jeunes, mais cependant plus âgées que Ninevée, dont la promotion au sein de l'ordre avait été fulgurante. En règle générale, il fallait des années pour qu'une novice obtienne la bague au serpent. Et plus longtemps encore, à partir de là, pour qu'elle reçoive enfin le châle.
« Faolaine, conduis-les dans leur chambre et assure-toi qu'elles n'en sortent pas. Jusqu'à nouvel ordre de la chair d'Amirline, elles auront droit à du pain, du bouillon froid et de l'eau. » Si l'une d'elles ose proférer un mot, mets-la de corvée de casserole jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus debout.
Shiryam se détourna et s'enfuit, la colère transpirant de tous ses gestes. Faolaine étudia les trois jeunes femmes, l'air d'attendre une nouvelle transgression, venant de Ninevée, par exemple, qui continuait à s'empourprer de colère. À l'évidence, la jeune brune au visage un peu rond n'avait aucune tendresse pour les femmes qui piétinaient si sauvagement le règlement. Sans nul doute, elle ne portait pas non plus dans son cœur une naturelle, Ninevée en l'occurrence, qui avait pu sauter le noviciat et qui canalisait le pouvoir avant même d'arriver à Tarvalon. Quand il devint évident que l'ancienne sage-dame ne craquerait pas, Faolaine tenta de l'aiguillonner.
« Quand la chair d'Amirline te verra, elle te fera probablement calmer. »«
Arrête ça, Faolaine !»
intervint une autre acceptée. Doyenne des trois, elle arborait un coup de cygne et se déplaçait avec la grâce associée à cet oiseau.
« Je m'occuperai de toi, »
annonça-t-elle à Ninevée.
« Je m'appelle Théodrine, et je suis une naturelle comme toi. Tu vas devoir te conformer aux ordres de Sheryam Sedai, mais je ne te provoquerai pas. Allez, suis-moi. »
Ninevée jeta un regard inquiet à ses amis, puis elle se résigna à emboîter le pas à sa gardienne.
« Les naturels !»
lâcha Faolaine. Dans sa bouche, ce nom sonnait comme un juron. Lentement, elle se tourna vers Egwene. La troisième acceptée, une jolie jeune femme aux joues rondes comme des pommes, vint se placer à côté d'Elaine. Un demi-sourire flottait sur ses lèvres, mais le regard qu'elle adressa à la fille héritière indiqua clairement qu'elle ne tolérerait aucune incartade, si minime fût-elle. Mobilisant tout son calme, Egwene tenta de soutenir le regard de Faolaine avec la dignité un rien hautaine dont parvenait à faire montrer Elaine.
« L'âge rouge. Cette garce choisira l'âge rouge, ça ne fait aucun doute. Mais c'est le cadet de mes soucis. Par la lumière, que vont-elles nous faire? Pas ces trois filles, bien entendu, mais les Aes Sedai. Allez, bouge-toi !»
lança Faolaine.
« Inutile de rester planté là toute la journée. Déjà que je vais devoir faire le pied de grue devant ta porte. En route !»
Egwene inspira à fond, prit la main d'Elaine et suivit leur geôlière.
« Au moins, fasse la lumière qu'elle se soit occupée de Matt. »